Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et bienvenue sur Europe 1, on va vous entendre Julien, bon lundi matin, on espère que vous avez passé un bon week-end et on est très heureux de commencer cette nouvelle semaine avec vous.
Et avec un micro qui marche, cette semaine elle démarre au rythme de la petite balle jaune, tous les yeux rivés vers Roland-Garros, première journée des internationaux de France de tennis avec des Français sur les courts aujourd'hui, dont Benoît Paire et Richard Gasquet.
Mais pas seulement, entrée en piste également
de Rafael Nadal et de Novak Djokovic, matinale spéciale, vous l'avez compris sur Europe 1, radio matinale spéciale Roland-Garros, radio officielle de l'événement.
Dès 6h30, retrouvez toute l'équipe de Dimitri Pavlenko en direct de Roland-Garros. Et juste avant, Julien, l'invité du petit matin sera l'un des grands favoris du Grand Chelem parisien.
Oui, c'est la nouvelle sensation du tennis mondial. On dit de lui que c'est un prodige, plus fort au même âge qu'un certain Rafael Nadal. Voilà pourquoi, oui, à tout juste 19 ans, Carlos Alcaraz est l'un des favoris cette année.
Et le jeune Espagnol s'est confié en exclusivité au micro d'Europe 1.
Alors oui, ne cherchez pas, hein. Il n'est nulle part ailleurs. Son éclosion, ses succès, ses objectifs et même Kylian Mbappé, Carlos Alcaraz nous répond, rendez-vous à 6h10. Dans l'actualité également, en Blin, cet orage qui gronde au-dessus de Météo France.
Ils sont prévisionnistes, climatologues et ils dénoncent une baisse régulière d'effectifs et de budget. En 10 ans, 600 postes ont été supprimés au sein de cet établissement public. La subvention de l'État a baissé, elle, de 20% et une nouvelle suppression de 60 postes est annoncée pour la fin de l'année.
Et cette réduction de la voilure de Météo France avec des centres locaux qui ferment les uns après les autres repose notamment sur des programmes d'automatisation.
Oui, des machines qui pourraient transformer, voire mettre en danger le métier de prévisionniste, alors que le dérèglement climatique est au centre des préoccupations. Comment expliquer cette baisse de moyens humains et financiers? Nous entendrons à 5h45 Lionel Althusser, il est météorologiste à Météo France, responsable syndical CFDT Météo.
Et votre partition pour conclure?
Madonna ou la tournée mondiale qui a fondé le mythe de la chanteuse? Le Blonde Ambition Tour qui a fait l'objet d'un documentaire présenté à Cannes en mai 1991. Madonna, sex symbole, héroïne féministe, provoquante à souhait dans la partition à 6h20.
Et on commence avec la météo. Bonjour Anissa Haddadi. Anissa Haddadi, bonjour.
Est-ce qu'elle nous entend ? On n'aura pas la Anissa Haddadi.
On n'aura pas Anissa Haddadi. Ben vous savez quoi? On va passer directement au journal. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Il est
presque
5h.
5h.
Soyez bienvenus. Elisabeth Borne, première ministre la semaine, candidate aux législatives le week-end. Compliqué de porter la double casquette pour celle qui se présente pour la première fois de sa vie à une élection. Nous l'avons suivie en Normandie. Elisabeth Borne et son gouvernement qui vont vivre leur premier conseil des ministres ce matin. Et déjà un scandale, des accusations de viol visant Damien Abad, ministre des Solidarités. Et puis c'est le phénomène de l'année sur la planète tennis, on en parlait un instant. Carlos Alcaraz a fait sensation hier soir pour le premier tour de Roland-Garros. Retour sur son entrée fracassante dans le tournoi en fin de journal.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Journal qui vous est présenté par Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Pas facile de camper deux rôles, celui de première ministre et celui de candidate aux législatives. C'est pourtant ce qu'Elisabeth Borne fait en ce moment. Après avoir nommé son gouvernement, vendredi après-midi, elle a quitté Paris pour la Normandie où elle a passé une bonne partie du week-end à faire campagne, visite d'une exploitation agricole, déambulation dans les rues d'un centre-ville, puis dans les allées d'un vide-grenier. Jacques Serret, vous avez suivi ce déplacement pour Europe 1, baptême du feu compliqué pour celle qui n'a jamais été candidate à une élection.
Oui, difficile d'endosser pleinement le costume de candidate pour Elisabeth Borne, car dans les allées de ce vide-grenier, c'est bien pour sa nomination à Matignon que les habitants l'interpellent.
Félicitations, votre prise de fonction.
En positif.
Félicitations, on est content d'avoir quelqu'un comme vous.
Là, c'est gentil.
Comme en négatif.
Honnêtement, vous croyez que vous pouvez faire votre travail de ministre et en plus prendre une place de député?
Et tract des législatives en main, elle se retrouve à devoir défendre Emmanuel Macron.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire?
C'est un monsieur
alors
capricieux.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Eh ben, il faut déjà qu'il s'entoure de gens qui vont lui tenir tête. J'espère que vous le ferez. Parce que je
pense exactement que Macron, la position que j'envisageais.
Il décide des personnes qu'il met comme ministre parce qu'il sait très bien qu'il en fera ce qu'il en voudra.
Non, je peux vous assurer que ça ne s'est pas passé comme ça.
On verra.
Avant d'être rattrapé par les questions des journalistes sur les accusations de viol visant le ministre Damien Abad.
Je n'étais pas au courant. Je vais être très clair. Il ne peut y avoir aucune impunité. Je peux vous assurer que s'il y a des nouveaux éléments, si la justice est à nouveau saisie, on tirera toutes les conséquences de sa décision.
Début de campagne laborieux pour la candidate Elisabeth Borne, de la difficulté d'être première ministre en même temps.
Merci Jacques Serey. L'instruction est donnée pour les 14 ministres candidats aux législatives. S'ils sont battus, ils devront démissionner.
Et à propos de Damien Abad dont nous parlait Jacques il y a un instant, le nouveau ministre des Solidarités, ancien chef, vous le savez, des députés Les Républicains, réagit aux accusations de viol qui le visent.
Révélé par Mediapart, l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique assure de son côté avoir adressé des signalements à ce sujet à La République En Marche et Les Républicains il y a une semaine avant sa nomination au gouvernement. Des accusations que Damien Abad, sans surprise, Alexandre Chauveau, nie en bloc.
Oui, et bien que présumé innocent, Damien Abad a été contraint de s'expliquer hier par communiqué. Je conteste avec la plus grande force ces accusations. Les actes relatés me sont tout simplement impossibles à effectuer en raison de mon handicap, explique le ministre. Damien Abad, atteint d'une maladie congénitale qui restreint la mobilité de ses quatre membres, est accusé de viol par deux femmes. La première raconte avoir eu un trou noir après avoir pris une coupe de champagne avec l'élu. Elle se serait réveillée le lendemain à ses côtés dans une chambre d'hôtel en sous-vêtements avec le sentiment d'avoir été droguée. L'autre jeune femme, une ancienne militante du Nouveau Centre, décrit la contrainte psychologique qu'aurait exercée Damien Abad sur elle. Ses SMS pressants pour obtenir une photo de sa poitrine, ainsi qu'une relation sexuelle au cours de laquelle il lui aurait imposé une pénétration anale. Sa plainte, déposée en 2017, a été classée sans suite après confrontation. Interrogée sur le sujet, Elisabeth Borne a indiqué ne pas avoir été au courant. Mais la première ministre prévient, si la justice est à nouveau saisie, on en tirera toutes les conséquences. Déclaration qui fragilise un peu plus Damien Abad, alors que le premier conseil des ministres doit se tenir ce matin à 10h.
Merci Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
L'hôpital de plus en plus malade. Malade du manque de lits, mais aussi de bras.
La crise à l'hôpital qui sera l'un des premiers chantiers d'ampleur de la nouvelle ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, car le public est confronté à une vague de départs de soignants éprouvés par plus de 2 ans de pandémie. Une centaine de services d'urgence marchent au ralenti en ce moment. L'été s'annonce donc très chaud car les soignants aussi partent en vacances. Yasmina Katou, ceux que vous avez pu joindre sont unanimes. La situation devient critique.
Oui, dans l'Oise, par exemple, à l'hôpital de Creil, Loïc Penn est catégorique.
Nous ne pourrons pas tenir cet été.
Il est médecin aux urgences et son service fonctionnera en mode dégradé cet été.
On va se retrouver dans des situations de danger pour les patients parce qu'il ne faut pas imaginer qu'on fera la même qualité de travail avec un seul médecin là où il en faut deux.
Conséquence de ce manque de personnel, à Rennes, le CHU ne pourra pas accueillir tout le monde, alerte Louis Soula. Il est chef des urgences et du SAMU.
On veut filtrer cet accès aux urgences. Le patient se présente devant un service d'urgence. Une procédure de régulation est mise en place pour éventuellement réorienter ce patient vers une offre adaptée.
Pas de fermeture prévue à l'hôpital Avicenne de Bobigny en Seine-Saint-Denis où Christophe Prudhomme exerce en tant que médecin urgentiste. En revanche, il décrit une situation critique qui risque de s'amplifier.
On appelle ça les hospitalisations brancards et ce sont les patients qui se surveillent entre eux, heureusement, que parfois c'est un patient qui appelle pour quelqu'un qui est sur le brancard d'à côté et qui va moins bien et on peut réagir. Et nous craignons le pire pour cet été où il faudra bien quand même que les personnels prennent un minimum de vacances.
Le pire, c'est que ces patients meurent à cause d'une attente trop longue, faute de personnel.
Précision signée Yasmina Katou.
Pas une, ni deux, mais 3 journées de grève dans les transports en commun franciliens à partir d'aujourd'hui.
Mais elles ne concernent pas les RER et les métros, mais uniquement les bus et tramways de la RATP. En moyenne, 60% du trafic devrait être assuré. Aujourd'hui, conséquence de négociations entre la RATP et les syndicats sur l'adaptation des conditions de travail. Elles patinent depuis plus d'un an. La direction a donc annoncé début mai qu'elle prendrait des mesures unilatérales.
Un mois de mai toujours plus chaud. D'ailleurs, de nouveaux records ont été enregistrés hier.
Des records de température qui avaient déjà été battus la veille. Samedi, notamment dans le Massif central et les Alpes. Il a par exemple fait 25,7 degrés à Superbès dans le Puy-de-Dôme, 31,4 degrés à Grenoble et 34 degrés à Puy-Chadrac en Haute-Loire.
Et on le sait, après de fortes chaleurs, ça craque en général.
Dans les Deux-Sèvres, il est tombé hier certains grêlons de la taille de boules de pétanque. Le journal La Nouvelle République indique également que 4 personnes blessées par la grêle ont été prises en charge aux urgences.
Allez, on parle sport ce matin. Matinale spéciale Roland-Garros à partir de 6h30. Nous serons en direct de la Porte d'Auteuil, Dimitri Pavlenko et tous ses chroniqueurs européens qui, vous le savez, est la radio partenaire du tournoi et qui qui a débuté hier.
Entrée en lice aujourd'hui de Novak Djokovic, Rafael Nadal ou encore Stan Wawrinka. Hier, le français Grégoire Barrère a réussi un petit hold-up. Le 209e mondial s'est qualifié pour le second tour en battant le 105e Taro Daniel, il est japonais, dans la soirée spectacle grandiose avec le jeune phénomène espagnol Carlos Alcaraz qui n'a pas traîné. Axel May, il s'est montré impérial.
Parmi la petite quinzaine de milliers de spectateurs qui ont assisté hier soir à la victoire expéditive en 3-7 de Carlos Alcaraz contre un Argentin issu des qualifications, combien ont eu conscience de sans doute voir jouer l'un des favoris pour le titre? À 19 ans, Alcaraz est encore peu connu du grand public. En France, son nom est même écorché, parfois en Alcatraz. Mais le jeune Espagnol affole les compteurs. Sa précocité impressionne. 100e mondial il y a un an, il est arrivé à Roland dans la peau du 6e en ayant remporté 2 tournois majeurs depuis le début de la saison, Indian Wells et Madrid. Sur la terre battue madrilène, Carlito, son surnom, a battu coup sur coup, rendez-vous compte, Nadal, Djokovic et l'Allemand Zverev. Si Alcaraz, malgré sa jeunesse, n'a pas tremblé pour son entrée en lice, porte d'Auteuil, le tennis féminin est déjà orphelin de 2 favorites. Onze Jabeur, la Tunisienne, et Garbiñer Muguruza, l'Espagnol, sont passés à la trappe. Du côté des Français, 6 étaient engagés. Seul Grégoire Barrère a franchi le premier tour.
Merci Axel May. Ne manquez pas l'interview événement du jeune prodige espagnol Carlos Alcaraz ce matin sur Europe 1. Rendez-vous 6h10.
Interview exclusive. Oui. Il n'a parlé qu'à Europe 1 depuis ces derniers jours et c'est évidemment à ne pas manquer. Merci beaucoup Alban Le Prince pour ce journal.
Il est 5h08 et on passe aux courses avec Thierry Léger. C'est le pari gagnant. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Marseille-Borély et mon pari gagnant sera le 201 Deluca Shop, lauréat d'une épreuve similaire. Le 29 avril, justement sur l'hippodrome de Marseille-Borély et sur le parcours qui nous intéresse, il devrait pouvoir, sans aucune difficulté, doubler la mise. En effet, dans cette course où tous les chevaux seront à vendre au plus offrant après l'arrivée, c'est lui qui possède assurément et de loin les meilleurs titres. Alors notez bien, pour cet après-midi à Marseille-Borély, réunion 1 dans la deuxième course, le numéro 1, Deluca Shop.
Le numéro 1, merci beaucoup. Thierry Léger, on vous retrouve dans une demi-heure pour les pronostics du Quintet. A tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Et également Martin Lange avec nous pour le pressing. Bonjour.
Bonjour Omblin, bonjour Julien, bonjour à tous.
Bonjour Martin, on commence avec les unes de vos journaux. Le maire, Ndiaye, Macron au risque du en même temps, titre ce matin Le Figaro. L'arrivée d'une figure de la gauche dite culturelle à l'éducation aux côtés de ministres venus de la droite pose la question de la cohérence de l'équipe d'Elisabeth Borne, écrit ce matin Le Quotidien. Pape Ndiaye que l'on retrouve en une de Libération aux côtés d'un jeu de mots, pénurie de profs, le classe-tête. Alors que les recrutements sont au plus bas, le nouveau ministre aura fort à faire pour redonner de l'attrait au métier d'enseignant. Et puis on termine avec Le Parisien aujourd'hui en France qui consacre sa une au PSG. Le temps des grandes manœuvres, titre le journal, alors que les départs de Pochettino, l'entraîneur, et de Leonardo, le directeur sportif, semblent actés. Voilà pour les unes. Omblin, on commence avec vous.
Un article du Parisien dans lequel on suit un livreur Amazon pendant sa tournée. Vous le savez sans doute ou pas, les livreurs sont salariés de différentes sociétés prestataires et non du géant américain. Ils chargent leurs camions dans l'un des entrepôts d'Île-de-France, en l'occurrence, et le nombre de colis à transporter ne cesse d'augmenter, particulièrement depuis les fêtes. Un livreur témoigne, il est passé de 100 à 144 colis jour. La journée de travail dure 8 heures, 30 minutes pour le déjeuner, pour les petites urgences pipi dans la journée. Bah ça attendra, ou alors on se débrouille. Tous ces livreurs gardent les yeux rivés sur une application qui s'appelle Amazon Flex, qui leur indique où se rendre. Premier arrêt, c'est un gros camion qui ne trouve pas de place. Évidemment, il va rester quelques minutes en warning sur la route. On imagine facilement que le conducteur n'a pas le temps de faire le tour du quartier pour chercher une place de stationnement. Devant l'immeuble, les difficultés continuent. Chez Amazon, le colis doit être livré en main propre. Les gens ne sont pas souvent chez eux en journée. Ce qui n'est pas vraiment étonnant. Donc les livreurs doivent téléphoner au particulier s'il ne répond pas à la porte ou à l'interphone. S'ils peuvent laisser le colis dans la boîte aux lettres, encore faut-il la trouver cette boîte. Dans certaines résidences, ce n'est pas simple, tant les rangées sont nombreuses. Et souvent, bah, ça passe pas dans la fente de la boîte aux lettres. Certains livreurs ont réussi à se procurer des clés de boîte aux lettres, celles dont sont équipés les postiers, mais par leurs propres moyens, car Amazon n'en fournit pas. Le livreur repart de porte en porte, d'interphone en interphone, de boîte en boîte, toute la journée. Et parfois, il repasse là où il s'est arrêté quelques heures plus tôt. Là, c'est la faiblesse d'une application qui leur fait faire des détours. Mais il ne faut surtout pas s'agacer au volant. Le livreur dans son camion est fliqué. Une autre appli contrôle son comportement. Les marathons des livreurs Amazon, C'est dans Le Parisien, c'est très étonnant. Et je voudrais rajouter, si je peux me permettre, un petit article en plus qui est dans Libération, sur une télé suédoise qui diffuse pendant 3 semaines, 24 heures sur 24, la migration des cervidés vers des pâturages d'été. Une émission qui dure toute la journée où on suit des cervidés. Il n'y a pas de parole, il y a juste de l'image.
Autre ambiance. Amazon.
Et c'est un succès d'audience depuis 3 ans. Je trouvais ça formidable.
Ben c'est noté. Merci beaucoup. Ombline, Martin, à vous.
Oui, on dit souvent que les femmes sont les grandes oubliées de l'histoire. Eh bien, elles ont aussi été les grandes oubliées de la préhistoire. Alors, un exemple, hein, l'homme de Menton, découvert en 1872, qui est en fait la dame de Cavillon. Et des cas comme celui-ci, hein, il en existe des dizaines. C'est ce que montre un documentaire, Les femmes préhistoriques, hein, le bien nommé, diffusé hier soir sur la chaîne National Geographic. Un reportage qui tente à la fois de réhabiliter ces femmes, mais aussi de déconstruire quelques préjugés.
Et si nous nous étions trompés sur le rôle des femmes à l'âge de pierre ?
On a peut-être affaire à des sociétés matriarcales.
Archéologues et scientifiques dévoilent de nouveaux indices.
Je pense que cet individu était très probablement une femme.
Alors par exemple, si je vous dis homme préhistorique, vous pensez tout de suite un chasseur, pêcheur, cueilleur, pendant que la femme s'occupe de la cuisine recluse au fond de sa grotte. Sauf que les dernières études montrent que tout ça est faux. Entre un tiers et la moitié des chasseurs de gros gibier étaient des femmes. Alors pourquoi ces constructions genrées ? Eh bien parce qu'à l'époque où on a trouvé tous ces vestiges, il était inconcevable d'imaginer une femme chef de tribu ou même chasseuse. C'est ce qu'explique la paléoanthropologue, Marie-Antoinette de Lumley, qui a longtemps travaillé sur la Dame de Cavillon. Le squelette était orné d'une coiffe en coquillage, c'était un personnage important. Ils se sont dit que ça ne pouvait être qu'un homme, mais pas de chance, il s'agissait bien d'une femme. La taille des os de son bassin ne laisse aucun doute, estime la scientifique. Dès qu'un squelette était robuste, on l'attribuait forcément à un homme, déplore une autre préhistorienne. Sauf que les femmes préhistoriques étaient de vrais athlètes, c'est ce qu'a pu constater la réalisatrice du documentaire. Elle a comparé la densité des os de ces squelettes féminins à celle des championnes d'aviron de nos jours. Et figurez-vous que nos ancêtres étaient plus robustes que ces athlètes de haut niveau, probablement à cause ou grâce à une activité physique très intense. Alors si les archéologues ont longtemps calqué sur la préhistoire les clichés de leur époque, c'est en train de changer et c'est aussi grâce à ce documentaire. Ça s'appelle donc « Les femmes préhistoriques » et c'est disponible sur la plateforme MyCanal pendant un mois. Quant à l'article, c'est « Les femmes préhistoriques aussi ont souffert de nos préjugés sexistes » et c'est à retrouver sur le Huffington Post.
C'est merci drôle. Merci Martin. Alors après les femmes préhistoriques, intéressons-nous maintenant aux femmes du présent et plus particulièrement aux Américaines. Vont-elles perdre leur droit à l'avortement ? La question est sur toutes les lèvres outre-Atlantique depuis que le site Politico a révélé que la Cour suprême projette d'annuler l'arrêt Roe versus Wade, un texte adopté en 73 qui garantit le droit à l'avortement à toutes les femmes du pays, qu'importe où elles habitent. Or, si ce scénario se réalise, rappelle ce matin Le Figaro, une vingtaine d'États conservateurs du centre et du sud sont prêts à interdire, voire criminaliser l'interruption volontaire de grossesse. Le Texas, par exemple, a déjà réduit le délai légal à 6 semaines et incite ses citoyens à porter plainte contre les personnes qui aident les femmes à avorter, dont les chauffeurs de taxi qui les amènent dans une clinique. La perspective de l'annulation de l'arrêt Roe versus Wade suscite une vague d'inquiétude dans le monde aussi de la technologie et de l'Internet, car la criminalisation de l'avortement prendrait en effet une toute autre dimension à l'heure de l'hyperconnectivité. Et pour cause, aux États-Unis, aucune loi, contrairement à l'Europe, ne protège les citoyens de l'utilisation de leurs données numériques par la justice d'un État. Donc, dans le pire des scénarios, les smartphones et ordinateurs des résidents des États où l'IVG deviendrait illégal pourraient être saisis, analyser et les conduire tout droit devant les tribunaux. Ombline, imaginons un instant que nous sommes en 2023. Vous venez, pour X raison, de vous installer à Dallas, au Texas, où depuis quelques mois, l'interruption volontaire de grossesse est considérée comme un acte criminel. Problème, vous tombez enceinte et ne souhaitez pas mener la grossesse à son terme. Alors comment faire ? Comment avorter quand on habite le Texas ? Question que vous tapez dans Google ou tout autre moteur de recherche. Au bout de quelques jours, vous êtes prise d'un doute. Peut-être que le test que vous avez acheté à la pharmacie était défectueux, alors vous en procurez un autre, mais cette fois vous le commandez sur Amazon. Une amie à qui vous êtes confiée au travail vous indique sur Messenger connaître un centre de planning familial qui pratique encore des IVG en secret. L'idée vous fait peur, alors pour vous rassurer, vous allez voir à quoi ça ressemble, vous entrez l'adresse dans votre GPS. Et bien vous voyez, tous ces petits gestes du quotidien laissent des traces, des preuves qui pourraient être utilisées contre vous par un tribunal. Et ce n'est pas de la science-fiction. En janvier 2018, une habitante du Mississippi a été accusée d'avoir fait passer un avortement hors délai pour une fausse couche. Un homicide volontaire pour l'accusation, qui se basait en partie sur le fait que la jeune femme avait tapé sur son smartphone les jours précédents « acheter en ligne pilule abortive ». Elle risquait jusqu'à 40 ans de prison et a été finalement été relaxée 2 ans après le début des poursuites. Ces dernières semaines, les associations pro-avortement ont diffusé massivement des conseils pour apprendre à cacher ces traces numériques. Elles recommandent aux Américaines faisant face à une grossesse non désirée dans les États concernés de faire leurs recherches en ligne sur l'avortement en navigation privée, d'utiliser des messageries chiffrées où les échanges sont supprimés automatiquement pour discuter du sujet avec leurs proches, de créer une adresse email spécifique pour contacter une clinique, de laisser chez elles leur téléphone pour se rendre aux rendez-vous médicaux ou à défaut d'acheter en liquide un téléphone prépayé, téléphone dont il ne faudra pas activer la géolocalisation ni le collecter à vos réseaux sociaux. C'est beau le progrès. Avortement, comment le smartphone des Américaines pourrait se retourner contre elles, c'est à lire ce matin dans le Figaro.
Donc c'est la préhistoire en fait. Les sujets se rejoignent. Merci beaucoup Julien. Merci Martin. On se retrouve dans 40 minutes pour les sports et vous serez en direct de Roland-Garros.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Omblin Roche et Julien Pierce.
5h18 sur Europe 1, les principaux titres de ce lundi, le journal permanent Alban Le Prince.
Et le rendez-vous est donné à 10h. Premier conseil des ministres du gouvernement Borne ce matin. Et déjà, un scandale, les accusations de viol visant Damien Abad, le nouveau ministre des Solidarités, révélé par Mediapart. Il indique dans un communiqué nier avec la plus grande force. Et parmi les 14 ministres du gouvernement Borne en lice pour les législatives, qui restera au gouvernement ? Réponse après les législatives, car tous les ministres candidats devront démissionner s'ils sont battus. C'est l'une des priorités de l'équipe, protéger le pouvoir d'achat des Français face à l'inflation, une hausse des prix aux conséquences inattendues. Les abandons d'animaux sont en hausse et les adoptions en baisse, 4% de moins depuis le début de l'année par rapport à 2021, selon la SPA. Et puis doublé pour Max Verstappen, le pilote néerlandais prend la tête du championnat du monde des pilotes avec 6 points d'avance sur Charles Leclerc après sa victoire hier au Grand Prix d'Espagne, la 4e de la saison.
Europe 1. À présent sur Europe 1, c'est la chronique de celles et ceux qui font bouger les lignes et les initiatives en France et elle nous emmène ce matin à Perpignan.
Bonjour Grégoire Bessas.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le cofondateur de Pure Pills. C'est une marque de produits ménagers écologiques et sans déchets. Expliquez-nous.
Tout simplement, un produit conventionnel que vous achetez type Ajax pour laver vos vitres, pour pas les citer, ils sont composés à 80 voire 90% d'eau. Nous, tout simplement, on a condensé la matière active dans une pastille qu'on va diluer, donc on va recharger sa bouteille. Ça va permettre de pas transporter d'eau, de pas jeter de bouteilles ni de pulvérisateurs en plastique à usage unique. Et en fait, on rentre dans un cercle vertueux pour faire son ménage.
Donc tout est absolument concentré dans la pastille que l'on dilue dans le même contenant en fait.
C'est exactement ça. Aujourd'hui, c'est une pastille qui fait 5 grammes. On a 5 formulations différentes pour 5 types d'usage, puisqu'on va avoir un multisurface, on va avoir un dégraissant cuisine, un produit anti-calcaire pour la salle de bain, un produit pour les vitres et un produit pour le sol. Et donc, tout ça, c'est des petites pastilles à diluer. Et donc, on recharge en fait son contenant et on vide surtout sa poubelle de son contenant.
Tout le nécessaire, effectivement, pour briquer sa maison. Je le disais en introduction, vous n'utilisez pas de produits controversés ou toxiques dans la composition de vos pastilles, elles sont 100% naturelles ?
Nous, on n'a rien révolutionné. Le seul défi qu'on s'est lancé, c'est d'avoir une pastille donc à diluer qui soit 100% naturelle. Et pour en fait venir valider notre travail, on s'est fait labelliser par le label EcoCert, qui est le label le plus restrictif au niveau des produits ménagers. Et donc aujourd'hui, je peux vous affirmer que c'est 100% d'origine naturelle. Et surtout, voilà, pour éviter aussi les émanations nocives de produits, puisque aujourd'hui on s'aperçoit que dans un intérieur, l'air est 7 fois plus pollué que l'air extérieur, et c'est aussi, entre autres, à cause des produits ménagers conventionnels qu'on peut utiliser.
Si on prend par exemple votre dégraissant cuisine, quel est le principe actif que vous utilisez ?
Alors, c'est comme des recettes de chimiste, je peux pas vous dire exactement la composition, mais on va avoir des produits naturels qu'on va retrouver comme type du bicarbonate, type des choses comme ça, de l'acide citrique aussi. Donc voilà, c'est vraiment des matières naturelles et après c'est vraiment une formulation. Je pense que pour chaque produit, on en a eu jusqu'à entre 10 et 12 formulations sur lesquelles on a travaillé. On a vraiment essayé d'être au niveau des standards du marché, voire meilleur, puisqu'à un moment donné, un produit, s'il n'est pas efficace, vous n'allez pas le réutiliser. Donc pour nous, c'était vraiment une priorité, c'était d'abord d'être efficace, d'être économique aussi, puisque c'est un produit qui vaut 2,50 € une pastille, Et aussi, la cerise sur le gâteau, c'est le côté écologique. Et donc, pour nous, c'était un triptyque qui était hyper important pour pouvoir développer ces produits.
Il y a des substances vraiment inquiétantes dans les produits ménagers chimiques classiques qu'on trouve dans tous les commerces ?
Aujourd'hui, c'est des bombes chimiques, en fait, vraiment, sur du produit ménager conventionnel. Surtout, en fait, il y a une opacité aussi, puisque l'industrie n'a pas d'obligation à mettre sa recette, juste des pourcentages. Donc là aussi, pour nous, on est assez transparent, vous pouvez le voir sur notre site internet. Mais oui, bien évidemment qu'aujourd'hui, de toute façon, on le voit, les lois sont en train d'être régies pour éliminer ces produits toxiques. Mais il y a un gros lobbying derrière tout ça. Donc pour nous, c'était un élément essentiel aussi pour pouvoir proposer en fait les produits de demain. C'était éliminer en fait toutes ces émanations.
Et ces pastilles, vous les fabriquez où ? En France ?
Aujourd'hui, non, on ne les fabrique pas en France. Nous, on est basé à Perpignan, donc dans le sud de la France. On va produire nos pastilles à 200 km de nos bureaux à Barcelone, puisqu'on a aussi notre logistique qui est à Barcelone. Donc pour nous, ça faisait sens, puisqu'on réduisait en fait le bilan carbone des trajets entre usine et logistique, et aussi pour nous faciliter aussi, la visite auprès de notre prestataire. Il n'y a pas de dogme à produire français, mais vraiment produire local.
Ces pastilles, on peut les trouver où ? On les achète où ?
Alors aujourd'hui, vous allez essentiellement les retrouver sur notre site internet, sur www.purepils.fr, et après chez d'autres revendeurs. On n'est pas encore en grande surface, ça va arriver petit à petit. C'est un produit qu'on a lancé en octobre 2022, donc on est tout jeune encore. Donc il nous faut d'abord une communauté des utilisateurs, et après derrière, on pourra aller diversifier nos cadres de vente.
Et vous avez mis en place, je crois, un système d'abonnement où l'on reçoit ses recharges automatiquement, c'est bien ça ?
Exactement. En fait, comme vous allez pouvoir, en fait, au début, vous allez acheter vos produits, vous allez pouvoir aussi vous abonner. Mais le mieux, en fait, c'est quand vous commencez à avoir un réachat assez régulier de vos produits. Là, on a mis directement une formule d'abonnement et c'est vous pouvez tout régler. Vous pouvez régler vraiment la durée de mois d'expédition, c'est-à-dire un mois, deux mois, trois mois. Le nombre de pastilles, c'est vous qui maîtrisez, en fait, par rapport à votre consommation. Ben voilà, l'envoi, en fait, de ces pastilles. Et en plus, ce qui est aussi une petite révolution, c'est que ça rentre dans votre boîte aux lettres. Donc en fait, c'est votre facteur qui vous apporte ça et donc vous n'êtes plus en rade de produits ménagers et par la suite des autres produits que nous allons développer.
Comment vous est venue l'idée de créer cette marque de produits ménagers Purepils ?
Alors l'idée, c'est en voyant ma maman qui a jeté une pastille de chlore, de Javel, alors qu'il y avait une bouteille de Javel à côté. Et du coup, en fait, c'était assez naturel aussi puisque... Avant, on avait une box en fait qui s'appelait Pousse Pousse, qui faisait du do-it-yourself. Et donc, en fait, c'est aussi ce triptyque du retour client qu'on avait, de ma maman que j'ai vue avec une petite pastille, et en fait, du coup de balai qu'on souhaitait mettre dans ces produits ménagers, puisque depuis 30 ans, ils n'ont pas bougé peut-être la formulation, mais ils sont toujours dans des bouteilles en plastique à usage unique. Et quand on prend cette bouteille, que c'est fini, et qu'on la jette, et qu'en fait, on va répéter ce schéma, on va dans le magasin, on va réacheter une bouteille. Je pense que c'était quelque chose qu'on devait essayer de révolutionner. Et je pense que dans 5 ans, 10 ans, ça sera la norme d'avoir des produits qui soient rechargeables.
Merci beaucoup Grégoire Bessas de nous avoir présenté Purepils. C'est la marque de produits ménagers écologiques et sans déchets. On vous souhaite beaucoup de succès et on vous dit à bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Bonjour, bon réveil, nous sommes le lundi 23 mai, dans un instant le journal de 5h30 de Lénaïque Monnier, où l'on va s'intéresser au premier conseil des ministres du gouvernement Borne, et puis dans un quart d'heure on parlera de la baisse des effectifs chez Météo France qui se poursuit.
Et les salariés de l'établissement public, qu'ils soient prévisionnistes ou climatologues, se montrent de plus en plus inquiets. Depuis 10 ans, ils assistent à la fermeture de centres locaux, à des services réorganisés, amputés d'une partie des moyens humains et financiers, ou encore la généralisation de l'automatisation des prévisions météorologiques et climatiques. Nous serons dans un quart d'heure avec Lionel Althusser, il est météorologue à Météo France et responsable syndical CFDT Météo.
Et juste après le retour de votre rendez-vous série du lundi.
Marie Gicquel nous gâte avec deux séries ce matin qui ont comme point commun le voyage dans le temps. Rendez-vous à 5h50.
Mais avant la météo, bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
Alors, un bon coup de frais pour ce début de semaine.
Oui, et ces départements se trouvent entre la Gironde et le Rhône, en passant par le Puy-de-Dôme ou encore l'Occitanie. Alors, cette nuit, les orages sont même remontés jusqu'au Pays de la Loire. Alors, ce matin, on a des orages assez forts quand même, entre le Massif central et le centre. Ces orages vont même se décaler et arriver jusqu'à la région parisienne et la Normandie dans la matinée. C'est cet après-midi que les orages arrivent sur le Grand Est et sur la région Rhône-Alpes. Attention, ils seront localement forts et accompagnée de fortes rafales de vent. Après une matinée chaude, voire même lourde, les orages seront violents dans l'est du pays. De manière générale, le temps change assez radicalement aujourd'hui, avec des nuages sur presque toutes les régions, du vent et du soleil qui résistent encore sur le pourtour méditerranéen et la Corse. Alors côté thermomètre, c'est une chute brutale des températures, on perd 10 à 15 degrés par rapport à hier, 18 à 23 en général et jusqu'à 30 degrés en Provence.
C'est noté, merci beaucoup Anissa Haddadi. Excellent réveil à tous à l'écoute d'Europe 1, il est 5h30.
Europe 1.
Elisabeth Borne donne sa feuille de route ce matin. Premier conseil des ministres pour lancer les grands chantiers du quinquennat, avec ou sans Damien Abad, le nouveau ministre des Solidarités dans la tourmente après des accusations de viol. Dans ce journal également, j'irai me baigner chez vous, ou comment des femmes musulmanes louent des piscines privées pour éviter les bassins municipaux. Et puis Kylian Mbappé nous dira cet après-midi pourquoi il a choisi de rester au Paris Saint-Germain. Conférence de presse très attendue.
Europe Matin. Ombline Roche et Julien Pierce.
Très attendu l'est aussi le journal de Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Le gouvernement Borne réunit donc pour la première fois en Conseil des ministres à 10h ce matin pour donner un cap aux équipes ministérielles. Plusieurs chantiers évidemment, le pouvoir d'achat, mais aussi la santé, la réforme des retraites. Autant de sujets sensibles dans un contexte préélectoral. Arthur Delaborde, c'est pour montrer qu'on est au travail que le Conseil des ministres a lieu aujourd'hui et non pas comme c'est l'habitude mercredi.
Oui, Emmanuel Macron aurait pu attendre mercredi, traditionnel jour du Conseil des ministres, pour convoquer la nouvelle équipe, mais le président a choisi de réunir les membres du gouvernement dès aujourd'hui, seulement 3 jours après leur nomination. Il s'agit de montrer que l'exécutif est opérationnel et qu'il travaille sur les dossiers brûlants. Le pouvoir d'achat et l'inflation d'abord. Conforté à Bercy, Bruno Le Maire planche déjà sur des mesures visant à protéger les Français contre la hausse des prix. Ce paquet pouvoir d'achat devrait être présenté avant les législatives. La réforme sensible des retraites devrait aussi être évoquée ce matin à l'Élysée. Le nouveau ministre du Travail, Olivier Dussopt, est chargé de préparer ce projet jugé indispensable par Elisabeth Borne. La planification écologique devrait également être au cœur des discussions, alors que la locataire de Matignon promet d'agir plus vite et plus fort face aux défis climatiques. Un premier conseil des ministres par ailleurs entaché par les accusations de viol à l'encontre de Damien Abad. Un doute subsiste quant à la présence du nouveau ministre des Solidarités arrêté tout à l'heure à l'Élysée.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1 concernant Damien Abad. Je rappelle qu'il a été nommé ministre des Solidarités malgré un signalement de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles à la REM et chez les Républicains. Damien Abad qui conteste avec la plus grande force ces accusations et Elisabeth Borne qui a confirmé qu'elle n'était pas au courant.
Elisabeth Borne et ses ministres qui sont sous pression avant les législatives.
Il n'y aura pas de passe-droit. Les ministres devront bel et bien démissionner s'ils ne sont pas élus aux élections. C'est une tradition républicaine à rappeler l'Élysée.
Elles sont mal à l'aise dans les piscines municipales. On vous raconte ce matin pourquoi certaines femmes musulmanes se ruent sur le Airbnb de la piscine.
Oui, échapper au regard des autres, mais pouvoir se prélasser au bord d'une piscine. Quand elles ne vont pas dans les bassins municipaux, comme à Rennes ou à Grenoble, qui autorisent le burkini, eh bien, la clientèle musulmane qui en est adepte préfère louer à la journée des piscines privées chez des particuliers sur l'application Swimmy. Reportage près de Strasbourg de Mélina Fachin.
Une belle et grande piscine intérieure, des transats moelleux, un immense jardin, tout ça rien que pour elle. Pour 30 euros de l'heure, Souaïda et Imen, deux sœurs musulmanes, ont loué cette piscine chez une particulière. Le seul moyen, disent-elles, de pouvoir se baigner en toute tranquillité.
Bien sûr, c'est lié à notre religion, on peut être en maillot de bain, on peut, voilà, et à l'abri des regards.
Ce que vous pourriez pas faire, par exemple, dans une piscine publique ?
C'est vrai que ça coûterait moins cher, mais justement, c'est vraiment ce cadre privé qui nous attire. Et n'importe quelle tenue qu'on désire.
La propriétaire de cette piscine, c'est Betty. Inscrite sur Swimmy depuis 4 ans, elle est surprise du nombre de clientes musulmanes et juives aussi qui viennent chez elle.
La question principale, c'est est-ce qu'il y a un vis-à-vis ? Est-ce qu'on peut nous voir ? Et je réponds non. J'ai cherché des stores pour fermer justement les vitres. Et je ne m'attendais pas du tout à avoir ce type de clientèle au départ. Mais c'est vrai qu'on voit qu'on leur amène un plaisir qu'elles n'ont pas. J'imaginais pas qu'il y avait telle privation, quoi.
Le site Swimmy estime qu'aujourd'hui, 20% de sa clientèle est musulmane. L'Ampertime près de Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1.
Attention, si vous êtes francilien et que vous prenez les transports en commun, la journée pourrait être galère.
Oui, les bus et les trams vont tourner au ralenti en raison d'une grève à la RATP. Prévoyez 3 trams sur 5 en moyenne aux heures de pointe. 2 bus sur 3 avec l'interruption sur certaines lignes. Le mouvement doit durer jusqu'à mercredi. Je précise que le métro et le RER ne sont pas touchés par cette grève.
L'été risque d'être très chaud à l'hôpital après les départs en cascade de 60%. soignants des hôpitaux publics et la suspension des non-vaccinés, la situation est pour le moins critique.
Dans plusieurs villes, les services d'urgence sont partiellement fermés, faute de personnel, manque de bras, fermeture de lits. Comment prendre convenablement en charge les patients? À Chinon, par exemple, les urgences et la maternité sont fermées, conséquence directe de l'épuisement des soignants. Reportage de Zoé Pallier.
Un petit local défraîchi du centre-ville, au premier étage d'un café d'habitué où il n'y a plus qu'un sujet de conversation.
Tout à l'heure, une dame qui m'a dit « faites attention à la marche, il paraît que les urgences sont fermées ». Je lui dis en l'occurrence, oui, je suis au courant.
Car François est infirmier à l'hôpital en arrêt maladie, comme 21 de ses collègues, harassé par des cadences qu'il n'arrive plus à tenir.
De se dire que on n'a pas le temps de changer la protection d'une dame de 90 ans, c'est compliqué psychologiquement à accepter.
La fermeture était donc prévisible, estiment les soignants, mais la suite est incertaine, souligne Tiffaine. Depuis une semaine, la sage-femme renvoie des dizaines de patientes enceintes vers les hôpitaux de Tours et de Saumur.
C'est une situation qui nous angoisse beaucoup, toutes les petites maternités qui ont fermé jusque-là, ça a commencé comme ça, par des fermetures provisoires, donc on a très peur.
Angoisse partagée par Cécile, le ventre arrondi et le regard furieux.
Déjà une grossesse, c'est stressant, et là de savoir qu'il faut qu'on monte en voiture pendant 40 minutes, ma première impression c'était la panique. Si demain il y a une urgence, Tours, on va pas les appeler puisqu'on n'a pas été suivis là-bas, ni Saumur.
Reste d'ailleurs à savoir si ces deux hôpitaux pourront accueillir toutes les nouvelles patientes. L'ancien syndicaliste Force Ouvrière, il dit craindre un effet domino et l'épuisement de nouveaux soignants.
Et on compte déjà une centaine de services touchés en France. Les agences régionales de santé sont très inquiètes puisque l'été arrive et que les soignants devront, comme nous tous, prendre des congés en juillet et en août.
On ouvre notre page sport. Les supporters parisiens n'en reviennent toujours pas. Pourquoi Kylian Mbappé a-t-il décidé de rester au PSG?
Sans doute un peu plus cet après-midi puisque le crack du foot français donne une conférence de presse. Les grandes manœuvres vont à présent débuter avec pour principal chantier la quête d'un nouvel entraîneur. Cyril de la Morinerie, il y a déjà quelqu'un pour remplacer le directeur sportif Leonardo qui a été viré samedi, Manu Militari.
Oui, Luis Campos, portugais de 57 ans, discret et travailleur, est en pole position pour succéder à Leonardo. Ce dénicheur de talent hors pair s'est fait un nom à Monaco puis à Lille. Sur le rocher, Luis Campos fait la connaissance de Kylian Mbappé, décèle son potentiel unique et noue des liens avec sa famille. Deuxième chantier, l'entraîneur. Mauricio Pochettino devrait partir. Plusieurs noms circulent. Christophe Galtier, l'entraîneur de Nice, que Luis Campos avait installé à Lille. Sans oublier la piste Zidane, que Campos connaît également. Europe 1 confirme que le contact est établi entre le PSG et les représentants de l'ancien entraîneur du Real Madrid depuis près d'une semaine. En outre, Zinedine Zidane ne ferme pas la porte au PSG. Enfin, l'effectif devrait évoluer, confirme notre consultant et ancien joueur du PSG, Jimmy Algerino.
Déjà, je pense, c'est de vendre et après d'amener des joueurs à des postes clés comme le milieu défensif qui pourrait venir aider Verratti au milieu, peut-être aussi un défenseur central et après peut-être aussi un joueur offensif puisque Di Maria part du Paris Saint-Germain.
Désormais, tout est possible. Mbappé a un pouvoir d'attraction énorme. L'attaquant du Barça, Ousmane Dembélé, par exemple, rêverait de jouer aux côtés de la star parisienne.
Cyril de la Morinerie, l'autre actualité sportive, c'est Europe 1 qui se met à l'heure de la petite balle. Nous sommes cette année encore radio officielle de Roland-Garros. On va bien vous en faire profiter. Rien qu'aujourd'hui, on retrouvera sur les courts Nadal et Djokovic et aussi Benoît Paire ou encore Richard Gasquet pour les Français.
Et dès 6h30, vous retrouverez Dimitri Pavlenko pour une matinale spéciale sur place. Et ne manquez pas à 6h10, interview exclusive de Carlos Alcaraz, la nouvelle sensation du tennis mondial, l'Espagnol de 19 ans, qui s'est qualifié hier pour le second tour. C'était le journal de Lénaïque Monnier. Merci beaucoup Lénaïque. On passe aux courses à présent. Les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, direction l'hippodrome de Marseille-Borély. Pour ce Quintet, un handicap qui réunira 16 chevaux âgés de 4 à 9 ans sur la distance de 2100 mètres. Et je n'ai pas hésité à placer en tête de ma sélection Dragonnet, le numéro 8. Deuxième de cette même épreuve l'an dernier, aussi performant cette année et qui partira avec la confiance, sans réserve, de son entourage. On lui opposera Kahuna, le numéro 3, en plein épanouissement et pour lequel son entraîneur François Rohaud n'hésite pas à effectuer un long déplacement de Pau jusqu'à Marseille avec de légitimes ambitions, avec Cléodore, le numéro 5, en regain de forme, mais aussi désormais idéalement placé et qui possède de solides références sur cette piste marseillaise. Ensuite, méfiez-vous des numéros 4, Prince Anodin, déjà lauréat d'un quintet et deux fois placé à ce niveau, et 10, Wellington Rose, à Lente et en plein boom, et qui de plus a hérité d'une position idéale dans les stalles de départ, le paramètre souvent déterminant pour réussir à Marseille. Enfin, les numéros 2, Électron Libre, 1, Bobby d'Argent et 6, Captain de Cerisy, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 8, 3, 5, 4, 10, 2, As et 6.
Merci beaucoup Thierry Léger et à demain pour des nouveaux pronostics que vous pouvez retrouver bien sûr dès maintenant sur Europe1.fr.
Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein.
Claude François qui est mort au milieu
de... C'est le premier jour de l'euro.
Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin.
Europe 1. Le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
C'est un 23 mai, le 23 mai 1991, que la toute première ministre de la 5e République, Edith Cresson, a prononcé son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Laure a 57 ans, elle accepte cette nomination et par la même occasion la volonté du président de la République, François Mitterrand.
Oui, François Mitterrand lui a proposé le poste une première fois. Refus d'Edith Cresson qui craint un déferlement de misogynie contre elle. Mais François Mitterrand insiste, alors elle finit par accepter. Et voilà ce que l'on dit d'Edith Cresson au moment de sa nomination.
C'est une battante, une femme qui a fait preuve de combativité, tant sur le plan local quand elle a pris la mairie de Châtellerault que sur le plan national et international quand elle menait des délégations de patrons français aux États-Unis et dans d'autres pays.
Et dans son discours devant l'Assemblée nationale le 23 mai 91, Edith Cresson prend les devants quant à la misogynie de certains collègues.
Nous ne devons pas nous perdre en querelles qui ne profitent à personne et sûrement à aucune des formations politiques qui sont présentes sur ces bancs.
Mais elle est chahutée lors de ce premier discours par des députés de l'opposition du RPR.
Les manches retroussées, appuyées sur le pupitre, Edith Cresson a tenté l'oral de rattrapage au milieu du chahut rigolard des députés de l'opposition.
Je crois que un peu de calme, là, il est 7h30, là, c'est l'heure où vous vous énervez. Bon, alors... Juste avant le dîner.
20h, sortie de l'hémicycle avant une dernière explication, Edith Cresson croit avoir trouvé son style.
Après tout, le Parlement, c'est pas un endroit où on lit des papiers, c'est un endroit où on se parle, comme son nom l'indique. Je ne vois pas pourquoi nous ne parlerions pas.
Et les campagnes contre elle, les critiques virulentes continueront dans les mois qui suivent.
Oui, elle est comparée à Madame de Pompadour, la maîtresse de Louis XV. Elle est critiquée, on l'a dit, par l'opposition et aussi par son propre parti. Récit en juillet 91 du journaliste d'Europe 1, Emmanuel Faux.
Le PS censé la soutenir. Si Edith Cresson a régalé hier les membres du comité directeur sur les pelouses de Matignon, elle n'a pas manqué de leur exprimer le fond de sa pensée. Et notamment par ces quelques phrases... La droite a fait un bilan hâtif de mon gouvernement, j'aurais souhaité qu'elle soit la seule.
Il y a à l'époque une inflation importante et une flambée du chômage. Edith Cresson était donc mise face à des défis d'ampleur, mais elle racontera plus tard que c'est l'acharnement contre elle qui a mis un terme à son mandat de première ministre, 11 mois seulement après sa nomination.
Merci beaucoup Laure d'Autriche et à demain pour un nouveau jour où sur Europe 1. Dans un instant, l'inquiétude des prévisionnistes et des climatologues de Météo France avant une nouvelle suppression de postes annoncée pour la fin de l'année.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Il est 5h43 et nous en venons à présent au climat social qui règne à Météo France. Climat agité depuis presque 10 ans, depuis que les différents services sont touchés par des baisses régulières d'effectifs. D'ailleurs, 60 nouveaux postes doivent être supprimés d'ici la fin de l'année.
Bonjour Lionel Althusser.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes météorologiste à Météo France et responsable syndical CFDT Météo. En 10 ans, 600 postes ont été supprimés. La subvention de l'État a baissé de 20%. Météo France est l'un des meilleurs services météo d'Europe et du monde. Craignez-vous que cela ne soit plus le cas si cela continue ainsi ?
Comme vous le dites, la diminution des effectifs commence à se faire grandement sentir. Au-delà des chiffres, il y a aussi une question d'ambiance et de volonté d'aller toujours plus loin dans l'expertise pour les agents, puisque on doit abandonner certaines missions, malheureusement. Dans le sport automobile, il y a des appels d'offres mondiaux qui sont lancés, notamment par exemple par la Fédération internationale automobile, c'est-à-dire la Formule 1. En Formule 1, donc, on a des contrats qui ont été remportés par nos prévisionnistes, donc nos experts de Météo France, et ils sont demandés à travers le monde. Et ben, on va être obligé d'abandonner cette activité parce que la direction nous a dit qu'il fallait faire des choix. Et faire des choix aujourd'hui, c'est consacrer une partie des effectifs à l'étude du changement climatique, mais l'expertise de pointe, par exemple, pour la course automobile, il va falloir l'abandonner. Alors c'était environ 7 à 8 emplois hein, qui étaient en jeu. Par contre, c'était aussi une renommée mondiale. Et voilà, dans 2-3 ans, on va devoir arrêter. Et même pour poursuivre aujourd'hui, il nous faut un effectif. Voyez-vous, on est en train de négocier avec la direction pour avoir cet effectif. Donc, c'est pas simple.
Ce sont les postes des prévisionnistes qui sont principalement touchés. Et peut-être je vais trop loin, mais en danger ?
La prévision est en danger parce que pour pallier à la baisse des effectifs, on automatise. Et donc, en automatisant, on perd de l'expertise humaine. Par exemple, dans les centres de montagne, on a failli fermer des centres de montagne, mais les élus sont montés au créneau, et les élus montant au créneau et allant voir le ministère et tirant la sonnette d'alarme, on a pu conserver des centres à Chamonix, Bourg-Saint-Maurice, etc. Mais il a fallu se battre, et là, c'était la qualité de la prévision qui était en danger, parce que les experts locaux, vous imaginez bien qu'ils ont une certaine compétence qui est irremplaçable. La puissance de calcul qui remplace l'humain de plus en plus, elle sait faire des choses. En revanche, elle est quand même moins bonne sur des terrains accidentés ou des terrains montagneux, notamment. Et donc, c'est ça qui est en jeu. Globalement, la prévision, dans la restructuration de Météo France qui a débuté il y a 5 ans, là, on a restructuré en disant où est-ce qu'il y a des effectifs à gagner. Eh ben, à la prévision, avec la puissance de calcul, on remplace l'humain par la machine et tout va aller très bien. Du moins, c'était le raisonnement qui était mené par la direction dans le cadre d'Action publique 2022, qui a commencé en 2018. Ce raisonnement-là a été mené, mais aujourd'hui, quand on compare ce que sait faire la machine et ce que savent faire les humains, on n'y est pas encore complètement côté puissance de calcul, côté ordinateur, quoi. Dans un an, on devrait passer à une grande partie de la prévision qui serait automatisée.
Donc cela veut dire qu'il y aurait de moins en moins d'humains, puisque la machine a besoin effectivement de calculer, mais l'expertise humaine pour interpréter ces calculs est primordiale.
On avait une organisation qui était assez simple il y a encore une bonne dizaine d'années. On avait des agents qui étaient dans chaque département. On a fermé 2/3 de ces centres sur les 10 dernières années. Et les agents ont des compétences, une expertise sur chacun des massifs. Donc c'est important de garder de l'expertise humaine et puis de savoir interpréter les sorties de modèles. L'ordinateur, la puissance de calcul, il prend les données observées, il simule ce que va donner l'atmosphère avec les observations et il vous donne des cartes de modèles. Ces cartes de modèles, ce sont les prévisionnistes qui savent les mieux les interpréter parce qu'ils savent si un modèle, à un moment donné, il va exagérer ou si au contraire, il va minorer les phénomènes dangereux. Et c'est notamment quand il y a des phénomènes dangereux qu'il faut de l'expertise humaine.
L'Organisation météorologique mondiale a présenté la semaine dernière son dernier rapport sur l'état du climat mondial en 2021, un rapport qui se veut alarmiste. Il confirme que les 7 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées sur Terre. Comment expliquer cette baisse de moyens humains et financiers en pleine menace de dérèglement climatique ?
C'est un paradoxe et nous, on est motivés pour aller voir le ministère et faire valoir que si on veut contribuer à la connaissance du climat passé et futur et faire des bonnes simulations, il nous faut des moyens. Il nous faut alors des moyens humains, évidemment, mais il nous faut aussi des moyens en puissance de calcul. C'est-à-dire qu'il faut à chaque fois renforcer la quantité de calcul qu'on peut faire à la seconde pour avoir la meilleure simulation possible.
Vous pensez alerter le nouveau gouvernement ?
Bien sûr, il va falloir aller voir le nouveau gouvernement, d'autant plus que l'année dernière, Météo France a conclu un contrat d'objectifs et de performance avec l'État, qui dresse des défis, des objectifs en matière de simulation du climat, en matière de prévision, en matière d'innovation technologique. On a beaucoup de choses intéressantes qui sont inscrites dans ce contrat d'objectifs. Simplement, on n'a pas les moyens qui sont associés à ça. Et curieusement, la négociation sur les moyens, elle se fait une année plus tard. C'est-à-dire qu'elle doit se faire cet été. Donc cet été 2022, on va discuter des moyens qui sont associés au contrat d'objectifs qu'on a signé l'année dernière. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on saura si toutes les ambitions qu'on a affichées dans ce contrat d'objectifs, on pourra les atteindre ou pas. D'autant qu'on souligne souvent que Météo France génère des bénéfices socio-économiques. C'est-à-dire que le budget de Météo France, c'est à peu près 300 millions. Et ça rapporte à la société 4 à 8 fois la mise. C'est-à-dire que ça rapporte à la société 1 milliard, 2 milliards, selon les années, selon les phénomènes dangereux qu'on arrive à anticiper. Un exemple très simple, si un jour vous avez un épisode neigeux qui arrive sur une métropole, et bah, si les avions sont bloqués pendant 24 heures, ça va pas faire plaisir à grand monde et puis ça va stopper le monde économique. Donc ça, si on arrive à bien l'anticiper et à saler au bon moment et faire en sorte que les avions arrivent à continuer à décoller et à atterrir, eh ben, c'est bon socio-économiquement, enfin, en tout cas économiquement. Donc ça rapporte, les activités de Météo France rapportent à la société. C'est ça qu'on va faire valoir cette année.
Merci beaucoup Lionel Althusser d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Europe 1. Vous êtes météorologiste à Météo France, responsable syndical CFDT Météo. Merci encore, bonne journée.
Merci à vous, au revoir.
Europe Matin,
Omblin Roche et Julien Pierce.
6h10 sur Europe 1, le journal permanent, Alban Le Prince.
Matinale spéciale en direct de Roland-Garros à partir de 6h30 ce matin. Europe 1 est la radio officielle du tournoi Porte d'Auteuil qui a débuté hier. Alors à suivre aujourd'hui l'entrée en lice de Novak Djokovic, Rafael Nadal ou encore Stan Wawrinka. Premier conseil des ministres ce matin pour le gouvernement Borne et cette question, Damien Abad sera-t-il présent? Le nouveau ministre des Solidarités est visé par des accusations de viol révélé par Mediapart. Et puis l'Allemagne à la rescousse des États-Unis en pleine pénurie de lait pour bébé. Depuis plusieurs semaines, un avion chargé de 31 tonnes de lait maternisé est arrivé dans l'Indiana hier matin. Il devrait couvrir 15% des besoins immédiats.
L'actualité culturelle à présent et on parle série.
Bonjour Marie Jiquel.
Bonjour Mline, bonjour Julien.
Bonjour Marie. Alors on est gâtés ce matin puisque vous nous proposez deux séries pour le prix d'une.
Et oui, on va parler de deux programmes et de super pouvoirs aujourd'hui. Mais oubliez les combinaisons flashy, les cascades et les effets de films d'action. Des super pouvoirs cauchemars subis par nos deux héros. Alors vous, quel serait votre super pouvoir?
Moi j'aimerais bien voler. Ah ouais. Juste voir comme un oiseau.
Moi être invisible.
Bon, bah alors en tout cas, vous ne faites pas rêver les scénaristes petit écran qui en ce moment sont plutôt intéressés par ce voyage dans le temps, mais dans un passé plutôt proche. On se branche sur Netflix pour regarder Les 7 vies de Léa, courte série française en 7 épisodes avec Mélanie Doutet et Samuel Benchetrit, les parents donc de Léa, joués par Raïka Azanavicius, la nièce du réalisateur.
C'est une histoire de dingue. Pourtant, si c'était à refaire, je referais tout pareil. Parce que sinon... on se serait jamais rencontrés, Asmel. C'est pas possible, c'est quoi ce bad là?
Je suis un garçon.
Ok.
Smiley. Je suis pas Asmel. Moi je m'appelle Léa.
C'est un transfert, comme dans tous les livres de science-fiction.
Putain, mais quel jour là?
Voilà, alors Léa est une jeune ado qui va rater son bac car elle préfère évidemment faire la fête. Et lors d'une soirée, elle découvre le corps d'un jeune homme disparu il y a plus de 30 ans. Et le lendemain de cette soirée, grosse gueule de bois évidemment, elle se réveille dans le corps de ce jeune homme, donc 30 ans en arrière.
Aux premières loges, elle va donc pouvoir mener l'enquête de cette affaire non élucidée.
Et oui, habitant un corps différent par épisode, dont des corps de personnes qu'elle connaît bien, une série policière d'un nouveau genre.
C'est ma mère ! J'ai voyagé dans le temps en m'incarnant dans des corps.
Mais c'est pas hyper dangereux ton truc là?
La découverte d'un corps dans les gorges. C'est pour ça que t'es venu me chercher? Tu veux que je comprenne ce qui t'est arrivé?
Elle atterrit donc en 1991, l'époque où l'on écoutait des cassettes sur des baladeurs, on passait ses coups de fil depuis une cabine téléphonique et où Terminator 2 était projeté au cinéma. Et je pense que c'est ce petit côté nostalgique qui attire les producteurs de séries et les spectateurs. Une série entre le teen movie et le fantastique. Bon, ce ne sera pas une série marquante, mais c'est un bon divertissement.
Alors l'autre voyage dans le temps que vous nous proposez, il est à découvrir sur OCS avec cette série américaine The Time Traveler's Wife. C'est produit par HBO. C'est un conte d'amour à rebours?
Oui, alors là, niveau intrigue, accrochez-vous, car plus on avance dans la série, plus elle semble complexe. On rentre dans l'intimité d'un jeune couple pas comme les autres, Henry et Claire, joués par Theo James et Rose Leslie de Game of Thrones et Vigil. Ces amoureux n'ont pas du tout les problèmes de couple que l'on connaît habituellement. Lui peut voyager dans le temps, un don qu'il ne peut contrôler. Tout d'un coup, il s'absente du foyer, disparaît sans ses habits.
C'est pas un super-pouvoir. It's what's wrong with me. I can't keep hold of the current moment. I just slide off. I fall back in time.
Alors pour la faire simple, lors de ses voyages dans le temps, Henry va rencontrer celle qui deviendra sa future femme, Claire. Il la côtoie donc enfant, ado, jeune adulte. L'intrigue vous dit peut-être quelque chose, c'est l'adaptation du best-seller du même nom et la déclinaison d'un film avec Rachel McAdams et Eric Bana. Sauf qu'ici, on profite de la réalisation de Stephen Moffat qu'on connaît pour les séries Sherlock et Doctor Who.
Ça s'appelle The Time Traveler's Wife, c'est sur OCS et puis également à voir Les 7 vies de Léa sur Netflix. Bonjour, merci. Merci beaucoup.
Je viens de faire la chronique.
Merci, je veux dire merci beaucoup, Marie Jiquel.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h57, dans un instant, la météo, le journal et un entretien exceptionnel.
Oui, avec un prodige, la nouvelle sensation du tennis mondial, l'Espagnol Carlos Alcaraz s'est confié en exclusivité à Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. À tout juste 19 ans, il est déjà perçu comme l'un des favoris de cette édition 2022, comme l'était à son âge son modèle, un certain Rafael Nadal. Alcaraz est en plus sur une excellente dynamique. Il ne vous a peut-être pas échappé qu'il a remporté les Masters Mills de Miami et de Madrid ces dernières semaines et pourrait donc retrouver son idole ou Djokovic en demi-finale Porte d'Auteuil. Comment aborde-t-il ce Roland-Garros? Pense-t-il pouvoir soulever la Coupe des Mousquetaires dès cette année? Eh bien, rendez-vous à 6h10. On écoutera ensuite, Omblin, votre partition.
Le Blonde Ambition Tour de Madonna et son parfum révolutionnaire. La tournée fondatrice et légendaire de la chanteuse aux cheveux blonds platine au début des années 90. Rendez-vous dans 20 minutes.
La météo avec Anissa Haddadi en direct de Roland-Garros où la matinale d'Europe 1 va se poursuivre en intégralité à partir de 6h30. Bonjour Anissa.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
Et il fait beaucoup plus frais ce matin.
Ah oui, il faut mettre une petite veste, hein. Les températures dégringolent. Vous savez que par endroits, on a perdu jusqu'à 15 degrés, notamment en Nouvelle-Aquitaine par rapport à hier. Et ça, c'est à cause des orages, vous l'avez compris, les orages qui ont éclaté assez fort dans le sud-ouest. Hier, où nous avions 21 départements vigilance orange. Alors ce matin, nous avons 10 à 14 degrés sur la moitié nord. À l'est, il fait toujours assez lourd, hein. 20 degrés entre la vallée du Rhône et le Grand Est ce matin. D'ailleurs, les orages arrivent cet après-midi. Et puis cet après-midi, on aura 18 à 23 degrés en général sur la France et jusqu'à 30 au bord de la Méditerranée. Donc cette baisse des températures, c'est à cause des orages. Les orages qui arrivent dans l'est cet après-midi, qui seront localement forts, hein. Soyez prudents si vous nous écoutez en Bourgogne-Franche-Comté jusqu'en vallée du Rhône. On pourra avoir de la grêle, de gros coups de vent et jusqu'à 30 mm attendus en une heure dans certaines régions. Les pluies orageuses, elles sont également là ce matin entre la Normandie et la région parisienne. D'ailleurs, je peux vous dire que le toit du cours central est fermé et à mon avis, il va le rester une bonne partie de la journée parce que c'est de la pluie au programme pour ce deuxième jour de Roland-Garros.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1, excellent début de journée à tous. Nous sommes le lundi 23 mai. Il est 6h. Et à la une, les choses sérieuses commencent. Premier conseil des ministres du gouvernement Borne ce matin. Un mélange de personnalités de droite et de gauche et surtout une stratégie pour les législatives. Après Lille, Mgr Ulrich s'installe à Paris. Il prend la tête du plus important diocèse de France ce lundi. Et puis les compositeurs de musique de film en haut de l'affiche. Ils ont monté les marches du Festival de Cannes hier soir. Un événement inédit pour cette profession.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Et le journal de 6h vous est présenté par Roman Oquet. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Rentrée des classes à 10h. Premier conseil des ministres du gouvernement Borne. Sur le perron de l'Elysée, des figures de droite. Le maire Darmanin en tête, accompagné de personnalités de gauche aussi dans des ministères de premier plan.
Un rééquilibrage à moins de 3 semaines des élections législatives.
Le scrutin prévu les 12 et 19 juin prochains. Justement, Alexis de la Fontaine, la stratégie de l'exécutif, c'est de contrer la NUPES, l'alliance menée par Jean-Luc Mélenchon.
Oui, 12 des 26 nouveaux ministres viennent de la gauche, Elisabeth Borne en tête. Avec sa nomination, le président de la République veut rassurer son aile gauche délaissée durant le premier quinquennat. Alors chargée de la planification environnementale, la première ministre doit séduire cet électorat tenté par la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Tout comme le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye est lui aussi en mission dans ces législatives. Sa nomination est la seule largement saluée par toute la gauche, jusqu'à Jean-Luc Mélenchon. Ce chercheur colonial et historien spécialiste des minorités est le symbole de cette rupture avec l'anti-woke Jean-Michel Blanquer. Bref, l'intention d'Emmanuel Macron est claire, élargir vers la gauche pour couper l'herbe sous le pied de Jean-Luc Mélenchon.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. 6h01, des bombardements nuit et jour dans le Donbass en Ukraine. Une situation de plus en plus difficile, décrit le gouverneur de la région de Lugansk. La cible de Moscou s'appelle Severodonetsk, ville à l'est du pays.
Et c'est à Kiev, la capitale, qu'est attendu ce lundi le verdict du premier procès pour crime de guerre.
Oui, un soldat russe est accusé d'avoir tué un civil de 62 ans désarmé. Il risque la prison à perpétuité. La peine de mort n'existe pas en Ukraine.
Votre département sera-t-il menacé par la sécheresse d'ici l'été? C'est fort possible si l'on en croit la carte du ministère de la Transition écologique. En tout cas, il y a un risque probable dans la moitié des territoires.
Nous vivons d'ailleurs le mois de mai le plus chaud jamais enregistré dans notre pays. Un printemps sec aussi, 30% de déficit pluviométrique selon Météo France. 16 départements sont soumis à des restrictions sur l'utilisation d'eau. un phénomène aggravé forcément par le dérèglement climatique. Louis Salé, forcément, la question se pose, va-t-on finir par manquer d'eau potable en France ?
Oui, c'est un risque, surtout que cela s'est déjà produit, rappelle l'hydrologue Emma Aziza.
On a déjà manqué d'eau en France. Il y a 5 ans, c'était vraiment un scénario de fiction inimaginable, mais il suffit de prendre l'année 2019 et cette sécheresse historique pour comprendre que 20 départements se sont retrouvés avec des problèmes d'approvisionnement en eau. Des villes entières ont dû être alimentées par des camions-citernes. C'est un scénario qui est là, déjà présent et encore plus devant nous.
Parce qu'il pleut moins l'hiver, les nappes se vident. En 2070, leur rythme de recharge devrait baisser au moins de 30%.
Il y aura sans doute des problèmes d'alimentation en eau potable dans les zones qui subissent les plus forts déficits. Le pourtour méditerranéen est particulièrement concerné, la Provence, toute la zone du Poitou-Charentes, et puis on a le Grand Est, la vallée du Rhône. Donc on n'est pas tous égaux par rapport à notre approvisionnement en eau.
Pour que tout le monde soit approvisionné en eau potable, des solutions existent, creusées plus de nappes artificielles par exemple, le pays n'en compte qu'une vingtaine, et repérer les fuites sur les réseaux à l'aide d'outils technologiques. Il faut savoir que 20% de l'eau puisée par une collectivité ne parvient jamais jusqu'au foyer, mais des algorithmes peuvent désormais prévoir la façon dont une canalisation s'abîme au cours du temps pour la renouveler au bon moment et au bon endroit afin d'éviter toute fuite d'eau.
Louis Salé, spécialiste environnement d'Europe 1. Il prend la tête du plus puissant diocèse de France, Monseigneur Ulrich prend ses fonctions à Paris dès aujourd'hui.
L'ancien archevêque de Lille remplace Monseigneur Aupetit qui a démissionné en décembre.
Son successeur célébrera donc les vêpres sur le Paris de Notre-Dame de Paris à 16h avant une messe à Saint-Sulpice. Guillaume Dominguez, l'homme de 71 ans, est déjà attendu sur des dossiers déterminants.
Oui, réputé pour accorder beaucoup d'importance au dialogue dans la prise de décision, Monseigneur Ulrich aura pour premier chantier d'apaiser les tensions au sein du diocèse de Paris, divisé après la polémique sur la gouvernance de son prédécesseur, Monseigneur Aupetit. Une épreuve taillée pour le personnage, selon l'un de ses anciens collaborateurs à Lille, le père Benoît de Cinetti.
C'est un homme sage, pragmatique, qui réfléchit, qui prend le temps de mesurer les conséquences des décisions qu'il doit prendre, de prendre conseil, s'informer de ce qui est vécu sur place.
L'autre grand chantier du nouvel archevêque de Paris, c'est Notre-Dame et la rénovation de l'intérieur de la cathédrale. C'est lui qui aura le dernier mot sur le projet retenu, avec la lourde tâche de contenter fidèles et pouvoirs publics. Là encore, pour le père Benoît de Cinetti, Monseigneur Ulrich saura se montrer à la hauteur.
Ce dont je suis certain, c'est que ce n'est pas un homme qui se laisse impressionner. Peu importe l'interlocuteur, que ce soit un curé de paroisse, un paroissien, un responsable politique, c'est un homme qui cherche à prendre la bonne décision.
Avec la nomination de Monseigneur Ulrich, le Vatican veut redorer l'image du diocèse de Paris, vitrine de l'Église de France.
Guillaume Dominguez.
Paris, où vous aurez du mal à circuler aujourd'hui en bus et en tramway.
Oui, trafic fortement perturbé à la RATP ce lundi. Certaines lignes de bus seront même interrompues. Pour les autres sections, comptez 2 bus sur 3. Côté tramway, 5 lignes sur 8 seront affectées par ce mouvement social. Tout roule, en revanche, côté métro et RER.
De Paris à Cannes, on part au festival avec un événement inédit hier soir.
Ouais, première montée des marches pour les compositeurs de musique de film. Une trentaine de musiciens, ceux des films présentés sur la croisette. Lumière, donc sur une profession habituée à la fin du générique. Le reportage de notre envoyé spécial à Cannes, Marie Jiquel.
Beaucoup de spectateurs l'ignorent, mais le compositeur de musique de film est considéré comme le troisième auteur d'une œuvre cinématographique après le réalisateur et le scénariste selon le code de la propriété intellectuelle. Et pourtant, leur nom s'affiche tardivement au générique. François Besson, le directeur de l'action culturelle de la SACEM.
C'est simplement une question que les professionnels du secteur fassent les différences entre un auteur, ce qu'est un compositeur, un auteur du film, et puis les autres professions qui sont tout aussi indispensables à la réalisation d'un film et qui n'ont pas le même statut.
Selon le compositeur oscarisé Gabriel Yared, présent à Cannes, les compositeurs profitent tout de même ces derniers temps d'un regain de considération.
Mais vous savez, les compositeurs de musique sont de moins en moins dans l'ombre, je pense, à voir le nombre de concerts de musique de film qui se fait, et puis aussi cette montée des marches. Je crois que de plus en plus des opérations comme celle-ci peuvent avoir lieu à Cannes. Y aura-t-il un jour un prix? Je ne sais pas.
En attendant, les musiciens peuvent se tourner vers le prix indépendant du festival, le Cannes Soundtrack. Pas de palme, mais un disque d'or remis ce vendredi.
Marie Jiquel à Cannes pour Europe 1.
Et c'était le journal de Romane Hockey. Merci beaucoup Romane.
On passe au sport et ce matin direction Roland-Garros. Matinale spéciale à Roland-Garros à partir de 6h30, on vous le dit, et où on retrouve dès à présent Martin Lange pour le journal des sports. Bonjour Martin.
Bonjour Ambline, bonjour à tous.
Et la quinzaine qui a mal débuté pour les Bleus.
Oui, sur les six tricolores engagés hier, un seul s'est qualifié pour le second tour. Grégoire Barrère, tombeur du japonais Daniel en 5-7. Et il était le premier surpris, écoutez.
Franchement, il y a trois semaines, un mois, je me disais c'est impossible que je gagne un match en qualif. Donc voilà, c'est clair que je suis surpris.
Du côté des favoris, ça passe pour le prodige Carlos Alcaraz, que vous entendrez dans quelques instants au micro d'Europe 1. L'Espagnol a battu l'Argentin Londero en 3-7 sec. En revanche, deux grands noms quittent déjà la terre battue parisienne. L'Autrichien Dominic Thiem, double finaliste chez les hommes, et la Tunisienne Ons Jabeur, 17 victoires sur terre cette saison.
Le programme du jour, Martin.
10 Français, de Gasquet à Paire, et surtout deux géants, Djokovic opposé au japonais Nishikoya et Rafael Nadal qui affronte l'Australien Thompson. Nadal qu'on dit diminué par une blessure au pied et qui réfute le statut de favori.
Les résultats disent que je ne suis pas le favori. Sans doute que quand j'étais favori, je ne me voyais pas comme tel. Je me voyais évidemment comme un des candidats au titre. C'est ainsi que je me suis toujours vu dans ma carrière tennistique.
Raphaël Nadal au micro européen d'Axel May.
On passe au foot, Martin, et c'est déjà demain au Paris Saint-Germain.
Oui, 48 heures seulement après l'annonce en grande pompe de la prolongation de Kylian Mbappé. Ça s'active déjà en coulisses dans la capitale. Exit Leonardo, place à un nouveau directeur sportif, Luis Campos. Un bon choix selon le consultant d'Europe 1, Jimmy Algerino.
Il connaît très très bien le football français, il connaît très très bien le monde du recrutement, il connaît très bien Kylian Mbappé, ce qui peut permettre d'amener les petits détails, des petits joueurs pour constituer l'équipe qui pourra aller au bout en Ligue des Champions.
Et il faudra aussi trouver un nouvel entraîneur qui pourrait être Zinedine Zidane. Europe 1 est en mesure de vous confirmer que des contacts ont été noués entre le PSG et le champion du monde 98. Et puis on termine avec un peu d'ambiance, Ombline Julien.
Oui.
On emmène à Milan où les supporters de l'AC Milan ont dignement fêté le titre hier, le 19e et surtout le premier depuis 11 ans en Angleterre. C'est Manchester City qui rafle la première ligue.
Merci Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange depuis la porte d'Auteuil à Paris.
Et vous restez avec nous dans un instant, un entretien exceptionnel. Martin nous en parlait un instant, le prodige espagnol Carlos Alcaraz, invité d'Europe 1, radio officielle de Roland Garros. À tout de suite.
5h, 6h30,
Europe Matin.
Et comme promis à 6h11, nous prenons la direction de Roland-Garros, dont Europe 1 est la radio officielle. Europe 1 dont le service des sports peut s'enorgueillir ce matin d'une exclusivité mondiale, puisque le prodige Carlos Alcaraz a accepté de se confier à notre micro. À seulement 19 ans, l'Espagnol apparaît comme l'un des favoris de cette édition. Il a d'ailleurs facilement passé le premier tour hier soir en balayant l'Argentin Londero en 3-7. Jean-François Pérez, Axel May, c'est à vous.
Bonjour Carlos Alcaraz.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Interview exceptionnelle sur Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Merci d'être avec nous. On est ensemble avec Axel May qui va vous poser, parce que je sais que vous préférez répondre en espagnol, vous poser les questions de cette interview en espagnol.
Et buenos días.
Bonjour. Vous avez 19 ans. C'est votre deuxième participation. L'année dernière, vous étiez l'attraction. Cette fois, vous êtes quoi? Le phénomène?
Eh bien,
nous verrons. C'est vrai que l'année dernière, c'était ma première participation à Roland-Garros. Je pense que j'ai joué quelques bons matchs, mais j'étais un apprenti joueur qui se préparait pour l'avenir. L'année dernière, je suis venu pour jouer des matchs, pour acquérir de l'expérience. Je pense que cette année est différente. Cette année, je suis un meilleur joueur. J'ai grandi, j'ai beaucoup plus d'expérience. Et je viens ici pour jouer, pour faire des choses. Je crois que je suis prêt à jouer un rôle à Roland-Garros.
Roland-Garros, ça se passe évidemment en France, mais c'est presque un territoire espagnol. Nadal, Ferrero, votre entraîneur, Costa, Moya, Bruguera, ils sont tous espagnols et ils ont tous gagné ici. Que représente Roland pour vous ?
La vérité est que Roland-Garros représente beaucoup de choses. Beaucoup d'Espagnols ont gagné ici. Rafa, bien sûr, je dirais même qu'il est le roi de Roland-Garros, il a gagné 13 fois. Pour moi, Roland est un tournoi que je regarde depuis que j'ai 5 ou 6 ans. Depuis que j'ai commencé à regarder le tennis à la télévision. J'ai toujours vu ce tournoi et pour moi, pouvoir y participer signifie beaucoup. J'espère pouvoir faire un bon travail.
Et qui sont les favoris pour le titre cette année?
Eh bien, probablement Djokovic, Djokovic, Rafa
et Carlos.
Je pense que je pourrais aussi l'être. Je peux me dire que j'ai très bien joué, que j'ai battu les meilleurs et que je peux faire partie des joueurs qui peuvent avoir une chance.
En Espagne, vous êtes déjà une star. Hein. On vous appelle Carlito. Cette année, vous gagnez tout. Comment vivez-vous ça?
La vérité, c'est que je le vis sans me prendre la tête. À la fin de la journée, tout le monde parle de vous. Ils veulent que vous obteniez de bons résultats. Ils veulent que vous gagniez toujours. Mais je le prends bien, je le prends calmement, sans me prendre la tête. Et je sais que je ne dois pas me mettre de pression, que je dois jouer mon jeu, et c'est ce que je fais.
Quand les gens disent que vous ressemblez à Nadal, ça vous rend heureux ou ça vous énerve?
Il arrive un moment où je n'y accorde pas beaucoup d'importance. J'ai toujours dit qu'être comparé à Rafa est une bonne chose, car cela signifie que vous faites les choses correctement. Mais d'un autre côté, pas vraiment, parce qu'au final, Rafa est l'un des meilleurs joueurs du monde et je ne peux pas me comparer à lui.
Votre autre passion, c'est le football. Alors, attention, la question est piège. Vous aimez le Real Madrid? Kylian Mbappé à Madrid, vous auriez aimé?
Évidemment, Mbappé est l'un des meilleurs joueurs du monde en ce moment. Chaque équipe voudrait quelqu'un comme lui, et en tant que fan du Real Madrid, j'aurais aimé qu'il vienne.
Et Benzema, c'est le futur Ballon d'Or?
J'espère qu'il sera Ballon d'Or. Il a eu une année incroyable et je pense qu'il le mérite.
Muchas gracias. Merci beaucoup, Carlos Alcaraz.
Merci beaucoup.
On vous souhaite une excellente quinzaine ici à Roland-Garros, le plus de succès possible, et on vous suivra tous les jours sur Europe 1, donc la radio officielle de Roland-Garros. Merci beaucoup. Merci. Muchas gracias.
Vous restez avec nous dans un instant sur Europe 1, la partition de Madonna.
On termine avec votre partition, Blin. Il a été présenté au Festival de Cannes en mai 1991, avant de sortir dans le monde entier. Le documentaire qui suit Madonna pendant sa tournée Blonde Ambition Tour.
De Tokyo jusqu'à Nice, en passant par les États-Unis, les caméras suivent de près, dans les coulisses et sur scène, celle qui est en train de devenir incontestablement la reine de la pop.
Au début des années 90, Madonna crée un spectacle hors norme.
Composé de 5 tableaux, elle porte sur scène le fameux corset aux 5 coniques dessiné pour elle par Jean-Paul Gaultier. Provocante, Madonna compte bien ouvrir les esprits au risque de déranger grâce à un cocktail explosif. Musique, danse, religion, sexualité, homosexualité, le message est quasi politique. La tournée débutée au Japon se poursuit aux États-Unis où elle va se heurter à l'Amérique puritaine.
Madonna fait de son show une tribune contre l'église et pour une sexualité décomplexée.
Sur Like a Virgin, allongée sur un lit en velours rouge, d'abord lascive puis en transe, la chanteuse mime la masturbation au beau milieu de son concert.
Une mise en scène qui lui vaut une visite de la police en coulisses à Toronto, au Canada.
Si elle ne supprime pas ce passage, elle sera poursuivie pour outrage à la pudeur en présence de mineurs. Madonna ne cède pas et finalement la police ne donnera pas suite aux menaces. En Italie, elle déclenche le courroux du Vatican.
Les associations catholiques appellent au boycott des spectacles.
Le décor d'église d'un de ses tableaux ne plaît pas à tout le monde. Madonna prend alors la parole devant les journalistes. Mon show n'est pas un spectacle de rock conventionnel, dit-elle, mais la présentation théâtrale de ma musique. Et comme le théâtre, il soulève des questions, il pousse à la réflexion et vous entraîne dans un voyage émotionnel. Sous la pression, Madonna sera quand même obligée d'annuler un concert.
L'avant-dernier tableau de son show est consacré à Dick Tracy.
Film dans lequel elle apparaît et dont elle va s'inspirer pour son album I'm Breathless, sorti juste avant la tournée.
Oh.
Sur la scène du Blonde Ambition Tour, Madonna en 1990 avec Vogue, entourée de ses danseurs, elle bouge à la manière des mannequins de magazines. Madonna démocratise un style de danse adopté dès les années 70 par la communauté gay afro-américaine issue des quartiers pauvres de New York, le voguing.
Merci beaucoup, Omblin. Vous restez avec nous. La matinale se poursuit en direct de Roland-Garros avec Dimitri Pavlenko. À tout de suite.
Europe Matin. 6h26. Excellente matinale. Écoute d'Europe 1.
Et on vous retrouve demain à partir de 5h. Mais avant, direction Porte d'Auteuil et plus précisément le cours central où l'on retrouve Dimitri Pavlenko pour une matinale spéciale Roland-Garros. Bonjour Dimitri.
Bonjour Julien. Bonjour Omblin.
Bonjour. Bonjour.